y a une vie après normale.
Du numérique et des bouleversements que ça introduit évidemment dans toute la société, mais peut-être particulièrement dans le monde de l'édition, avec peut-être une citation de Jean-Claude Fasquelle qui disait « Ça me serait, dans une interview de 1999, peu avant son départ en tant que président, directeur général, ça me serait égal que le livre soit menacé si on trouvait autre chose de mieux. Je ne suis pas maniaque, mais je ne vois pas quelque chose de plus pratique à trimballer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, pour y trouver du plaisir, de la beauté et quelque chose d'éducatif. » Alors est-ce qu'aujourd'hui, avec l'essor des liseuses, tout ça, est-ce que ça, on pourrait remettre en question ça? Et surtout, question, c'est qu'est-ce que vous voyez, vous, de l'avenir du livre papier et de l'édition?
Bon, alors ENEP, là aussi, énorme sujet, évidemment, sur lequel tout le monde a glosé. J'essaie de vous répondre de manière un peu synthétique, mais c'est pas facile parce que on peut que enfiler des perles là-dessus. En gros, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis à un moment où on m'a prédit la mort du livre papier, c'est-à-dire que j'ai connu tous les prophètes de l'Apocalypse et je les ai connus avant qu'ils ne sévissent en France, qui m'ont expliqué à une époque où le numérique était en plein essor à New York quand j'y travaillais, que de toute façon, à l'horizon 2000, à l'époque, disait-il, parce que j'ai vu cette vague du numérique commencer quand je travaillais à San Francisco, plutôt comme VSNA, comme volontaire au service national actif à San Francisco, parce que j'ai fait plusieurs années à San Francisco avant New York. Hein. Donc la vague du numérique, je la vois venir de loin, si j'ose dire, et avec toutes les bêtises auxquelles elle a, d'anticipation auxquelles elle a donné libre cours. Alors, à l'époque, on avait donc une vision très manichéenne qui était le numérique déboule, le papier est mort, c'est un vieux métier, ça sera remplacé, etc. Comme ça n'a pas été le cas, très vite, le papier a dit « mais non, mais en fait, ça ne va rien bouger ». Les deux sont idiots, évidemment, ça bouge et ça tue pas. C'est-à-dire que de la même manière que la radio n'a pas tué la télé, qu'elle s'est superposée, etc., bon, les médias se superposent. Alors, de quoi parle-t-on réellement sur le numérique? D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a l'achat en ligne des livres par rapport à l'achat physique du livre en librairie. Ça, c'est un effet du numérique. On ne pouvait pas acheter en ligne des livres. Ensuite, il y a le livre numérique lui-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle le e-book. Les Américains parlent de e-book et de p-book. Le p-book, c'est le livre papier, et le e-book, le livre numérique. Bon. Alors, le livre numérique, c'est donc des fichiers numériques, comme vous le savez, consultables, achetables, à en gros 30% de moins que le prix du livre papier, et lisibles soit sur des tablettes dédiées, sur des liseuses dédiées, soit sur des tablettes multifonctions. Bon. La clé dans cette affaire, ça a été, si vous regardez, nous sommes arrivés en troisième position dans la vague du numérique. Le numérique a d'abord touché la musique, a touché la presse papier, a touché l'image animée, et puis est arrivé tardivement dans le livre. Les trois autres métiers ont connu des vrais problèmes avec le numérique parce que ils ont laissé les agrégateurs de contenu et les distributeurs du numérique maîtrisaient l'assiette du prix de vente de l'objet. Autrement dit, quand vous avez un DVD qui est accessible à 20€ à la Fnac, mais vous le trouvez à 3€ sur le trottoir, vous avez tué un marché. Bon. Quand vous laissez les agrégateurs de contenu déterminer votre prix de vente, vous êtes mort. Et ça, les gens du livre l'ont compris un peu partout. Le combat a commencé aux États-Unis. Aux États-Unis, Amazon a commencé sous deux auspices. Vous aviez Google qui a numérisé comme une tondeuse qui passerait sur une pelouse. Google a passé des deals avec des bibliothèques universitaires avec le droit de tout numériser. Ce faisant, ils ont numérisé aussi beaucoup de propriétés qui n'étaient pas en langue anglaise, et notamment beaucoup de propriétés françaises, beaucoup de livres français. Et ils ont outrepassé totalement les conventions et les lois, puisque la loi suppose évidemment que vous demandiez l'autorisation à un propriétaire avant de vous emparer de son bien. Et le système qu'ils ont voulu ériger mondialement, qui était le système qu'on appelait l'opt-out, consistait à faire peser la charge de la preuve du fait qu'ils avaient numérisé un contenu vous appartenant à la personne à qui ça appartenait. Donc on s'est mis à devoir passer notre temps à regarder ce qu'ils nous avaient volé pour leur demander d'avoir la gentillesse de nous le rendre. Ce qu'ils faisaient, mais ils ne s'exécutaient quand on leur demandait. Puis pendant ce temps, ils continuaient à numériser.
C'est pas pris.
Bon, donc c'est pas vu, pas pris. Enfin, c'est déjà pris, à toi de le voir. Oui. Bon, et de me demander de le rendre. Donc ça, compliqué. Ça, c'était Google et la numérisation et les deals qu'ils avaient passés avec les bibliothèques. Et de l'autre côté, il y avait Amazon, qui, avec le Kindle, avait développé une politique dans laquelle ils ont commencé à acheter assez cher aux éditeurs le droit de numériser, et où ensuite, ils ont cassé les prix, ils ont fait du dumping pendant plusieurs années. Ils achetaient autour de 10 euros, en gros, le droit, et ils vendaient le fichier moins cher que le prix d'achat. Ce faisant, ils se sont mis à peser quasi 80% du marché. Une fois qu'ils ont été en situation de monopole, ils se sont retournés vers les éditeurs pour dire « maintenant, c'est plus 10 euros, c'est 5 ». Classique. Les éditeurs leur ont dit « bah non, c'est pas possible ». Et là a commencé un vrai bras de fer aussi avec rétorsion de part et d'autre, y compris rétorsion d'Amazon sur la disponibilité des livres papier des éditeurs pour l'achat en ligne. C'est-à-dire, et oui, ça allait jusque-là, c'est-à-dire c'est comme si on transpose ça en France, c'est comme si la FNAC, pesant disons 20% du marché, avait développé un outil numérique et, ne trouvant pas un accord avec ses partenaires ou ses clients, avait décidé de rendre indisponibles les livres sur FNAC.com, l'achat des livres papier. Bon. Donc, tout ça est en guerre. Des procès démarrent et arrive un nouvel acteur dans le jeu qui était Apple, qui lançait à ce moment-là le pad. Et Apple se rapproche des grands acteurs de l'édition américaine et dit « bon, mais au fond, vous voulez quoi ? On voit que vous vous engueulez avec Google parce qu'ils numérisent sans vos autorisations. On voit que vous engueulez avec Amazon parce qu'ils vendent à bas prix et cassent les prix. Et surtout, ils sont en train de vous rogner vos marges. Qu'est-ce que vous voulez ?» Et les éditeurs disent ben, « on veut en gros maîtriser l'assiette du prix de vente et on veut déterminer avec vous la commission qui vous revient, mais que ce ne soit pas la part du lion pour vous comme vous faites avec tous les autres objets culturels que vous distribuez. » Et ça c'est ce qu'on a appelé la agency clause, qui stipule que l'éditeur reste propriétaire du contenu, que c'est lui qui détermine son prix de vente et que Apple prend X% pour distribuer, point barre. Un deal a été passé là-dessus, et aussitôt, il y a eu une contrepartie, une contre-offensive qui s'est manifestée par le débarquement du département de la justice américain chez les éditeurs, se saisissant de tous les ordinateurs, téléphones portables et autres. On a eu le même cirque en France à partir de la Commission européenne, en Allemagne, en France, partout en Europe, au motif qu'il y aurait eu une entente illégale sur les prix. C'est-à-dire que ce qu'ils essayaient de prouver, instrumentalisé en cela par, on le sait, par Amazon, qui en fait avait un agenda caché, si vous voulez, qui était d'obtenir, de pouvoir continuer à vendre à bas prix les fichiers, et qui voyait monter un acteur avec Apple qui ne leur plaisait pas du tout. Ils voulaient donc prouver qu'il y avait une entente sur le prix, et que les éditeurs s'étaient entendus entre eux sur le prix. Ils ont fait mine de confondre, autrement dit, le fait de s'entendre pour considérer que c'est à l'éditeur de déterminer le prix et l'entente sur un prix déterminé par objet. Ce qui, évidemment, est très différent, si vous voulez. Bon, alors c'est très technique, cette histoire, mais c'est très intéressant parce que La justice américaine est ainsi faite que il vaut mieux plaider coupable que de s'embarquer dans un truc dans lequel l'instruction dure 5 à 7 ans, ça finit entre les mains de jurys populaires qui connaissent ou pas, ou comprennent ou ne comprennent pas, et si les jurys populaires vous sanctionnent, alors c'est tout ce que vous avez vendu à un prix déterminé qui peut être requalifié sur autant d'unités, ça pèse des centaines de millions d'euros. Donc aucun des groupes américains ne pouvait se lancer dans une aventure de ce type. Et alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher, ils ont plaidé coupable. En disant, bon, ben ok, on fait un plaidé coupable. Et le département de la justice a imposé une liberté totale des prix sur le fichier numérique pendant 2 ans. Amazon ayant, encore une fois, instrumentalisé la chose.
Et
Et a,
gagné au final.
alors, ils espéraient casser les reins complètement de la librairie en 2 ans. C'est-à-dire, leur pari, c'était. Le pari d'Amazon, assez avoué, hein, c'est de désintermédier, c'est-à-dire de casser tous les intermédiaires entre les créateurs et les lecteurs, et d'être eux le seul acteur intermédiaire entre les deux. Donc il faut d'abord casser le réseau de la distribution et les libraires, puis dans un deuxième temps, casser les éditeurs. Voilà, c'est ça le but. Bon, il se trouve qu'en 2 ans, ils n'y sont pas arrivés. Ils ont même essayé de créer une maison d'édition là-bas, avec l'idée qu'au fond, les fichiers numériques, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce qui est disponible à la vente en fichiers numériques aux États-Unis est pour moins de la moitié une propriété qui est passée par de l'édition physique papier. C'est de l'auto-édition, mais
D'accord.
vous ne faites pas la différence. Vous avez des fichiers, mais vous ne savez pas si ce sont des trucs qui ont été publiés avant ou pas. Donc, à coup de jeu sur les algorithmes, la présentation des textes, etc., et le prix. C'est très facile pour Amazon de faire en sorte que apparaissent en super best-seller les 10 titres inédits qu'ils ont signés directement, qu'ils vont vendre pour 2 euros, sur lesquels ils vont faire une pub telle que à 2 euros ça va tourner à mort. Puis une fois qu'ils voient ce qui marche, ils font du numérique le test et après ils exploitent en papier ce sur quoi. Donc le papier devient dans leur esprit l'édition seconde du numérique, un peu comme le livre de poche et l'édition seconde du grand format, si vous voulez. Bon. Donc toute l'idée, c'était ça. C'était on a coutume avec du prix bas, on teste, et ce qui marche en grande série, on en fait du papier derrière. Voilà. C'est un modèle qui pour l'instant ne prend pas. Donc quand on dit a-t-on peur du numérique, en réalité, ça pèse quoi? Ça pèse en France de l'ordre de 7%. C'est très peu. C'est 7%. À peu près en volume, et c'est autour de 5% en valeur. Alors, c'est peu, mais c'est significatif en chiffres quand même, hein. Aux États-Unis, on est plus près de 25 à 27% et 50% sur les best-sellers. C'est-à-dire, dès que vous passez du best, vous êtes quasiment un pied dans le papier, un pied dans le numérique. Ce qui est frappant, c'est que d'abord, la courbe commence à s'inverser, c'est-à-dire, depuis 2 ans, croissance en plateau du numérique et légère régression et légère remontée du papier. Donc, autant pour ceux qui disaient, en gros, une fois qu'on aura mis le doigt dans le numérique, c'est irréversible et ça chassera le papier. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Deuxièmement, bon, est-ce qu'on veut être des fétichistes du contenant ou du contenu? C'est ça le fond de l'affaire. Au début, ce qui fait que les éditeurs se sont opposés à cette affaire du numérique, c'est qu'ils ont dit. C'est un postulat assez McLuhaniesque, si j'ose dire. Ils se sont dit, au fond, medium is message, le tuyau emporte un contenu de distraction et le papier emporte un contenu ou est une présomption de contenu de qualité. C'est pas, hélas, comme ça. C'est-à-dire, nous sommes les premiers à avoir mis de la merde dans un bas de soie et à avoir publié des livres sous forme de livres dont le contenu est dérisoire. Donc moi, mon sujet principal en tant que éditeur aujourd'hui et éditeur d'une génération un peu tournée quand même vers le présent et le futur. Mon sujet principal, c'est la transmission, c'est-à-dire comment faire en sorte d'avoir un peu de langage commun avec les générations qui suivent. Que ce passage de relais doive se faire sur tel ou tel support, mais relativement indifférent. Moi, je préfère de la qualité passée sur du numérique que de la merde passée sur papier. Donc, je suis un fétichiste du contenu, pas du contenant. Le contenant est neutre pour moi. Si les jeunes veulent du numérique, je leur fais du numérique. Et je dirais même qu'en tant qu'éditeur moderne, enfin inscrit dans la modernité, moi mon objectif c'est, quand j'ai du talent, de faire en sorte qu'il puisse exister sur le plus de supports possible. le plus. Et donc, je n'ai pas de valorisation particulière. Il se trouve que je suis d'une génération qui est plus à l'aise avec le papier. S'il y a une génération de digital natives qui préfèrent du numérique, j'ai aucun problème avec ça. Et encore une fois, je me défie un peu du raisonnement de certains de mes confrères très traditionnalistes sur le thème « le papier, c'était la qualité, le numérique, c'est de la merde », parce que j'ai vu exactement l'inverse. Non pas l'inverse, mais enfin, j'ai vu des expériences aux États-Unis de CD-ROM à l'époque où c'était le offline auquel on croyait, pas le online. Enfin, à l'époque, on ne croyait pas du tout à Internet. Hein. Quand j'y étais, moi, ce qui a généré des dizaines et des centaines de millions de dépenses, c'était la fabrication de quelque chose qui doit même plus exister pour vous, qui était le CD-ROM. Bon, vous avez connu un peu. Bon, ben voilà. Or, au carrefour de l'image, du son et du texte, il y avait plus de créativité dans les CD-ROM que je n'en vois dans beaucoup, beaucoup de livres papier aujourd'hui. Il y avait vraiment quelque chose qui était passionnant et qui cherchait. Bon, cette nouvelle frontière-là, elle n'a pas prise. Paradoxalement, elle est en train de prendre dans la mise en scène du papier lui-même. C'est-à-dire, je trouve que les jeunes romanciers ou les jeunes écrivains ont à l'évidence intériorisé les codes de la série américaine, du cliffhanger, du chapitre, du cut, de la coupe. Donc, cette culture de l'image et cette culture surtout du rythme de la série américaine, elle est en train de rétroagir beaucoup sur le papier. Donc, là, voilà, je crois qu'il faut avoir une approche beaucoup plus, comment dire, curieuse et positive que l'approche défensive et scrogneugneux qui est le numérique va nous flinguer. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et même moi, j'attends avec impatience de voir des créateurs capables d'apporter au carrefour de ces arts-là, images animées, sons et textes, quelque chose qui soit plus que de la prouesse technologique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que j'ai vu faire dans ces CD-ROM, c'était regarder comment on est calé et comment on est arrivé à faire coexister tout ça. Mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui, dans le papier, m'apporte plus que le papier actuel, dans l'image plus que l'image actuelle, dans le son plus que du son actuel. Je pense qu'on aura à terme des créateurs, est-ce qu'on les appellera vidéastes, écrivains, cinéastes, musiciens, j'en sais rien.
Total, en fait.
Mais on aura des créateurs, j'en suis convaincu, qui nous apporteront quelque chose qui est plus que la somme de l'ensemble de ces disciplines. Voilà. Et donc, je guette ça avec impatience. Je pense que ça fera partie de notre job d'éditeur aussi. Peut-être que je ne serai plus là pour le voir, mais en tout cas pour les jeunes gens qui me suivent dans ce métier, c'est impossible aujourd'hui de pratiquer ce métier sans avoir un peu de curiosité pour l'image. Impossible. Et d'ailleurs, les jeunes gens l'ont. Les passerelles entre le livre et le cinéma sont perpétuelles. Là où, quand j'ai commencé, on n'arrivait pas du tout à vendre nos livres en adaptation au cinéma. Aujourd'hui, on passe notre vie à le faire. Et c'est d'ailleurs une des manières qu'on a à la fois de survivre et d'aider nos auteurs à vivre et à vivre mieux. C'est que beaucoup d'entre eux arrivent à céder les droits cinéma de leurs livres à travers nous, à des producteurs, à des réalisateurs, à des acteurs. Bon. Donc, l'interface papier-image est essentielle aujourd'hui et je pense que c'est une des manières qu'on a justement de compenser l'éventuel problème de baisse de l'assiette de rémunération de l'auteur si devait se développer davantage le numérique sur des prix plus bas, avec des séries plus courtes, etc. Bon, si l'auteur devait être paupérisé de ce côté-là, il retrouvera de l'oxygène du côté des adaptations de tous ordres, si vous voulez. C'est ça, si vous voulez, ça qu'il faut qu'on pige, c'est que le métier tel qu'il a évolué fait de nous les metteurs en forme et en scène d'un contenu éditorial, qu'il fût lié, voilà, qu'il soit littéraire ou intellectuel, qui a vocation à se déployer sur tous les supports et que nous devons réfléchir aux meilleurs moyens de développer sur tous les supports. Parce que c'est aussi une manière d'aider nos auteurs à ne pas se paupériser. On est aussi là pour les aider à franchir la nouvelle frontière, si vous voulez.
C'est intéressant et en même temps, ça fait un petit peu du livre. Qui à l'époque était vu comme une fin en soi, oui. L'écriture, une sorte d'étape en fait, comme un brouillon vers une... Brouillon, là je suis très sévère évidemment,
oui, mais je vois ce que vous voulez dire.
Vers autre chose, que ce soit un film ou alors peut-être une forme d'art à venir qui serait plus complète, mêlant différentes choses, mais c'est aussi une sorte de déclassement, mot à la mode s'il en est.
Alors d'abord, ce livre. Déclassement, il a lieu, déjà, c'est-à-dire Moi, j'ai connu un temps dans l'édition où l'éditeur était au cœur du dispositif et en quelque sorte imposait sa loi. C'est-à-dire d'abord des auteurs à qui nous conseillions à l'époque de ne pas publier tel ou tel texte se fiaient à notre avis et ne les publiaient pas. Des libraires auxquels nous demandions une mise en place conséquente ou considérable d'un livre le faisaient. Il faut savoir que cette posture de surplomb n'existe plus pour l'éditeur. C'est-à-dire, c'est un marché ouvert, il n'y a plus de surplomb en amont vis-à-vis de l'auteur, en aucun cas, nous sommes dans une position de dévotion à l'égard de l'auteur, mais en aucun, enfin, il peut rester, entendons-nous bien, des rapports individuels dans lesquels des auteurs peuvent suivre des conseils, mais en gros, le jeune auteur aujourd'hui, il a une attitude consumériste à l'égard de l'éditeur, c'est-à-dire il fait son benchmarking, il regarde quel éditeur, quelle maison d'édition lui offre quoi, quoi en avance, quoi en publicité, quoi en espérance de vente à l'étranger, quoi en marketing ou en engagement de publicité, est-ce qu'ils me publient à telle ou telle période de l'année, est-ce qu'ils me mettent dans une rentrée littéraire. Ils font leur croix, ils cochent les cases et ils voient s'ils vont chez un tel ou chez un tel.
Bon. C'est saltimbanque sacrément géomètre hein, pour le coup aussi.
Enfin, en tout cas, je les vois beaucoup plus consuméristes à l'égard de l'édition que je ne les ai connus dans le passé, y compris quand ils sont dans une maison, c'est-à-dire... J'avais connu une époque où quand un auteur posait ses bagages dans une maison, il y restait à vie et puis il y avait un rapport, voilà, ce qu'on appelait une politique d'auteur. Bon. Et les auteurs disent, bah, puisque vous êtes incapable de la maintenir, cette politique d'auteur, puisque vous nous débranchez quand on ne trouve plus de public, nous, on ne va pas la maintenir non plus. Et donc, on vous quitte si on trouve mieux ailleurs. À dessein, je noircis un peu le tableau parce qu'évidemment, j'essaie de tout faire chez Grasset pour que précisément ça reste de ce point de vue très proche de du métier traditionnel. Donc un, vis-à-vis des auteurs, plus de surplomb. Deux, vis-à-vis de la chaîne du livre, plus aucun surplomb. C'est-à-dire aujourd'hui nous proposons et le libraire dispose. En aucun cas je ne peux forcer une mise en place alors que je l'ai fait dans le passé. Je ne la forçais pas, ça allait de soi. Je demandais tant d'exemplaires mis en place et je les avais. C'est fini tout ça. C'est fini parce que le libraire n'a plus les moyens, parce qu'il est exsangue, parce qu'il a plus... Il faut savoir que là, je vais vous dire quelque chose, mais qui va paraître un peu exagéré, mais faisons abstraction du fait qu'on parle de l'édition. Si je vous dis, voilà, à l'ère de la dématérialisation et du flux tendu, je vous parle d'un métier dans lequel moi, je fabrique des produits. Je n'ai rien vendu tant que je n'ai pas vendu ce produit au client de mon client. Entendons-nous, hein, le client du client, c'est le lecteur final, mon client, c'est le libraire. Deuxièmement, mon premier client a la faculté de me retourner le produit s'il ne le vend pas. Troisièmement, je fabrique en moyenne 4 fois plus de produits que je n'en vends. Quatrièmement, les produits qui me sont retournés sont impossibles à remettre à la vente parce que le fait de les trier et de les remettre à la vente est plus coûteux que la refabrication à l'unité du produit en question. Donc ils sont détruits. J'en fabrique 4 fois plus. J'ai pas vendu tant que j'ai pas vendu au client du client, je détruis ce qu'on me retourne, on me retourne à plus de 30%, en gros, un objet sur 3. Et enfin, la rémunération des intermédiaires entre moi et le client de mon client est telle que ça pèse plus de la moitié du prix du produit en question. Vous dites ça à un économiste, quel qu'il soit, il vous dit, écoute, je sais pas de quel produit tu me parles, je sais pas de quel modèle tu me parles, mais... Laisse tomber, mets la clé sous la porte, ton truc ne tient pas la route. Et de fait, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que si vous regardez l'économie de la chose, vous vous amusez à suivre le circuit d'un livre en librairie, vous apercevez que l'éditeur se fait de la trésorerie sur le dos de la librairie, laquelle se fait de la contre-trésorerie sur le dos de l'éditeur. Et donc on est dans un système en fait de surchauffe qui, si on est tout à fait honnête, se rapproche de ce que Madoff faisait. C'est ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Je surproduis et le libraire surretourne. Et je compense ces retours par de la production croissante. Bon, ben c'est ce qu'on appelle la surchauffe. Hein. C'est assez clair, comme on a pu avoir du surprêt et on a vu ce que ça donne. Donc, la bulle de papier, elle nous pètera la gueule, comme la bulle financière a pété. Et ce n'est pas parce qu'on dit « mais pourtant la Terre tourne » qu'elle va continuer de tourner. Les analystes aussi disaient « pourtant ça tourne » et Madoff aussi trouvait que son système tournait très bien et les subprimes, ça tournait très bien jusqu'à ce que ça ne tourne plus du tout. Bon. Donc, on surproduit, c'est évident. On fait de la trésorerie sur le libraire, c'est évident. On a un système pervers dans lequel le libraire est facturé à 90 jours, crédité à 60, voire à 30. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis petit libraire, je suis exsangue. Je retourne des bouquins en fin de mois et je les recommande en début de mois d'après. Bon, sauf que moi, les bouquins qu'on me retourne en fin de mois, je les détruis. Et puis pour les commandes du mois d'après, quoi, je les refabrique, etc. Donc, vous vous rendez compte que c'est un système très compliqué avec des offices, des mises à l'office, puis des réassorts, puis des retours, et puis vous ne savez pas combien vous avez vendu tant que vous n'avez pas votre mise en place, plus vos réassorts, moins vos retours qui vous donnent un net que vous avez plus d'un an après. Ah oui? Oui, alors on a des outils maintenant qui permettent, voilà, il y a des outils par des outils de statistiques, GFK et autres, qui permettent de savoir un peu combien on a de ventes nettes. Mais les ventes nettes dont on me crédite aujourd'hui sur les livres que j'ai là, c'est moins du quart de ceux que j'ai dehors. Comment savoir si j'en ai plus vendu, moins vendu, si les instituts de sondage sont exagérément pessimistes parce qu'ils ne prennent pas en compte telle et telle plateforme. Bref, tout ça c'est du business, mais c'est pour dire. Donc, tout ça, c'était pour résumer l'idée que l'aval, on ne le maîtrise plus non plus, on propose et le libraire dispose et il dispose avec sa trésorerie. Je ne suis pas en train de l'incriminer du tout. Il est absolument essentiel dans la chaîne, le libraire, absolument essentiel. C'était, je suis convaincu que c'est le seul moyen qui permet d'avoir une politique de l'offre. Le jour où on limite la librairie ou on passe sur de la grande distribution, ça conditionnera, voilà, ça conditionnera à l'évidence la nature de la production. Aujourd'hui, si on a encore la faculté, nous, éditeurs, de nous dire on fait une industrie de prototype, on y va par passion et on ne sait pas s'il y a un public, mais on y va parce qu'on croit à ce livre. Et si on n'a pas un libraire derrière qui nous suit, il ne se passera rien. Hein. Personne n'a jamais encore défilé dans la rue pour se plaindre de l'absence d'un premier roman. Donc voilà, c'est quand même la mission, elle est là et elle passe par ces canaux-là. Mais c'est un artisanat. Alors, vous me dites, oui, mais votre vision du livre comme étape, etc. Bon, force est de reconnaître aujourd'hui, je le constate tous les jours, à quel point le livre a perdu sa centralité, y compris dans la réflexion sur le monde contemporain. Alors, bien sûr qu'il y a une petite abbaye de Thélem dont vous faites partie, moi aussi, etc., qui continue à, considérer que c'est par là que ça passe. Mais comme outil d'intelligence du monde, c'est quand même, si vous regardez les listes de best-sellers, vous voyez bien qu'on est complètement déporté ailleurs. C'est-à-dire, essayer avec des livres d'intelligence aujourd'hui de faire des best-sellers, il faut se lever de bonne heure, quoi. C'est-à-dire, c'est évident que cette concentration croissante, le phénomène actuel, évident, et c'est celui qui est le plus problématique, c'est pas du tout la numérisation qui me pose aucun problème. Au contraire, elle apporte d'autres marchés, d'autres lecteurs. Et puis même, je suis assez souple là-dessus. Je pense que, pour partie, les livres les plus numérisés seront les livres les plus lus que ceux qui les lisent en numérique et qui les aiment beaucoup finissent par les acheter en papier pour en faire des livres de garde, en tout cas ceux qui ont le pouvoir d'achat pour ça. Bref, je pense que c'est un marché, c'est un moteur annexe en plus, que tout ça est pour l'instant assez sain. En revanche, mes vraies inquiétudes, c'est trois choses. La paupérisation, ou plutôt dans l'arbitrage des dépenses culturelles des ménages, la difficulté croissante à dépenser sur du livre, c'est-à-dire, bon, bah, on a une paupérisation de la population française, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup de temps et plus de moyens, et puis on a des gens qui ont beaucoup de moyens et plus du tout de temps. Bon, donc, et le temps consacré à la lecture par ceux qui auraient le temps d'eux et qui n'ont pas les moyens d'eux, ils ont beaucoup de dépenses avant. Il est évident que l'électronique, sous toutes ses formes, bouffe toute une partie de ça, à la fois en temps et en moyen, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'abonnement à Canal+, plus le Netflix, plus le téléphone du gosse, plus le... Bon, c'est des dépenses importantes, et que c'est évident que là-dedans, le livre a cessé d'être la priorité dans la dépense des consommations culturelles des ménages. Ça m'inquiète. Deuxième chose, la raréfaction de la lecture chez les grands lecteurs. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste depuis plusieurs années, c'est la catégorie de ce qu'on appelle les grands lecteurs, plus de 20 livres par an. Cette catégorie-là ne cesse de s'éroder, ça ne chute pas, mais ça s'érode. La catégorie du lecteur intermédiaire entre 5 et 20 se maintient à peu près, et la catégorie du lecteur occasionnel entre 1 et 3 monte. Mais c'est qui ces 1 et 3? Ce sont des non-lecteurs qui lisent des non-livres dans des non-librairies. C'est-à-dire, en gros, c'est typiquement le best-seller à la E.L. James, 50 nuances de Grey, compagnie. J'ai rien contre, ça fait lire des... Enfin, j'ai encore une fois, n'y voyez pas du mépris intellectuel, mais il est évident que cette concentration des ventes, cette polarisation croissante, va vers des livres différents, qui sont des produits. Donc quand vous me dites, mais c'est un peu inquiétant votre vision, moi je préfère un livre à fort contenu, qui a vocation à être déployé le cas échéant sur plusieurs supports de manière qualitative, qu'un produit à très faible contenu se déployant sous forme de livre auprès de gens qui sont des quasi non lecteurs et qui les achètent en hypermarché. En termes d'intelligence collective, si vous voulez, voilà, je considère que cette approche du livre carrefour, si j'ose dire, ça suppose déjà que ce livre-là est une capacité de déploiement sur plusieurs espaces que n'ont pas toujours ces livres dont on parle. Bon, donc, voilà, moi ça m'inquiète. Les jeunes qui lisent pas, ça m'inquiète, évidemment, c'est nos futurs lecteurs. Et là aussi, on a quand même des soucis. Même si la littérature jeunesse va pas mal, on voit bien que les jeunes, en tout cas, les filles jeunes, ça tient, les mecs jeunes, ça lit plus, et les ados décrochent. À quelques exceptions près, ça décroche, et quand ça décroche, ça ne reprend pas derrière. Donc ça, c'est terrifiant. La non-reproduction, le changement qualitatif des lecteurs, les gros lecteurs qui s'émoussent, les lecteurs intermédiaires qui s'émoussent un peu, les lecteurs occasionnels qui flambent avec du non-livre dans des non-points de vente, tout ça, qui est au fond la traduction dans les métiers qui nous intéressent aujourd'hui, de l'appauvrissement émotif, de la pipelisation, de la vulgarisation et de la déculturation à laquelle on assiste ailleurs. Il n'y a pas de raison de penser que cette bulle va résister à tout ce qui l'entoure. On baigne dans le liquide amniotique de l'évolution de la société française d'aujourd'hui et elle donne assez de signaux de sa détresse ailleurs pour qu'on puisse penser que ça ne se passera pas différemment. Et d'ailleurs, on en a chaque jour la preuve, ça se passe de la même manière dans le livre. Donc, et c'est d'ailleurs un sujet très, très... Enfin, quand on a un tout petit peu de conscience civique, c'est un des quatre consciences qu'on a tous les jours. Où mettons le curseur? C'est-à-dire, moi, tous les jours, je me pose des questions d'ordre moral, purement moral. Il y a des livres dont je sais qu'ils vont m'aider à payer les salaires, qui vont me faire plaisir à mon actionnaire, mais dont je sais aussi qu'ils vont flatter ou caresser le cerveau reptilien de mes contemporains et fabriquer en bout de ligne quelques pourcents ou quelques centaines de milliers de pourcents de plus pour Madame Marine Le Pen. Ben, ces livres-là, je n'ai pas envie de les publier. Voilà. Donc, jusqu'où cède-t-on à l'avachissement et au populisme ambiant? Il y a des livres, à l'évidence, qui répondent à ça, dont on sait pertinemment qu'ils vont marcher très bien. Est-ce qu'on a envie de les publier? Et ça, c'est le cœur du métier. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir la maîtrise d'une maison ou d'avoir la maîtrise ou la signature, la responsabilité de ce qu'on publie. C'est jusqu'où est-ce que je consens à déplacer le curseur dans la médiocrité de l'époque. Voilà, ou médiocrité dans la partie la moins dangereuse. Jusqu'où va-t-on dans le compromis qu'on a comme patron d'entreprise entre une PME qu'il faut faire tourner et quand même un rôle civique, parce que c'est pas un métier tout à fait comme les autres. Et ça, je sais qu'on n'est pas très nombreux à se poser la question dans ces termes. Je suis étonné de constater que beaucoup de mes confrères n'ont pas l'air de se la poser comme ça. Moi, je ne suis pas venu dans ce métier complètement pour rien, si vous voulez. S'il n'y a plus d'intersection possible entre ce qui m'y a fait venir et ce qui permet aujourd'hui d'en vivre, je préfère partir à la retraite que de céder sur le principe. Voilà. Alors, attention, hein, je ne vais pas jouer les grands vertueux et les grands puristes. Comme tout le monde, je cherche du chiffre. Comme tout le monde, j'ai besoin de faire tourner. Je suis ravi quand les livres marchent, etc. Je ne suis simplement pas prêt à le payer de n'importe quel prix. Je suis obsédé par l'idée de la transmission. Cette très belle formule de Lévinas qui disait « recevoir, célébrer, transmettre ». Voilà. C'est ça, ma conception du métier, c'est recevoir, célébrer, transmettre. Si je ne peux pas, dans une partie du catalogue de la maison, continuer de faire ça, je préfère en effet aller cultiver mon jardin.
Peut-être finir sur une note un peu plus joyeuse, oui, oui. Si elle est réaliste.
C'est pessimisme de la lucidité ou de l'intelligence, c'est optimisme de la volonté. Oui, c'est parce que je vis le truc comme ça que je me bats autant. Hein. Sinon,
autant abandonner le navire.
Faire du pognon. Oui. Voilà, c'est très bien. On peut faire ça aussi, hein, c'est autre chose.
Alors, justement, j'avais envie de vous demander quels sont les auteurs aujourd'hui, au cours de votre carrière ou dans les dernières années, dont vous êtes fier, que vous êtes fier d'avoir publié. Vous avez fait un vrai pari.
Ça, c'est la question piège, parce que, évidemment, si quelqu'un tombe là-dessus, chaque auteur que je n'aurais pas mentionné est susceptible de quitter la maison. Mais,
alors, disons,
non, il y a des registres
disons qu'on en prend un au hasard parmi tous ceux. Le hasard est toujours...
Non, il y a des registres très, très, très différents, si vous voulez. Bon. En matière de... Ouais, je vais prendre des paris différents. Voilà. En matière de littérature, il y a un homme que j'ai, pour lequel j'ai une très grande admiration comme écrivain et un très grand attachement personnel, c'est quelqu'un comme Pascal Quignard, par exemple. Voilà. Alors, pour ne pas, simplement pour vous dire ce que ça a de singulier, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas, en poussant une porte, de fermer toutes les autres. Pourquoi c'est intéressant cette affaire de Pascal Quignard ? D'abord, c'est quelqu'un que j'ai connu par sa compagne, qui s'appelle Martine Saada, qui a travaillé avec moi longtemps, et puis on s'est retrouvés comme ça, il y a eu 1000 passerelles, j'ai Kalman Levy, ici, etc. Et parce qu'un jour, Pascal Quignard m'a dit, voilà, moi je suis prêt à t'apporter un ensemble de livres que je vais faire, et dont il faut que tu saches que c'est un chantier que j'inaugure aujourd'hui, mais qui ne finira qu'avec ma mort, et qui s'appellera Dernier Royaume. Et dont la forme sera très 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 particulière, tu verras, et il y aura là à la fois des contes, de la pensée mise en forme littéraire, de la littérature mise en forme de pensée, et bon voilà. Alors il me décrit le projet, et il me dit assez gravement, écoute, si tu t'embarques là-dedans, sache que mon engagement, je te demanderai de m'assurer un engagement dans la durée, parce que moi, c'est une affaire qui va durer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous me posiez la question, Fayard, pourquoi, comment, etc. Une des raisons qui m'a fait ne pas quitter Grasset à l'époque, c'était cette conversation avec Quignard il y a 15 ans. Quand il m'apporte Dernier Royaume, et que d'ailleurs, il a le Goncourt avec le premier des volumes, Ombres errantes de Dernier Royaume. C'est-à-dire, Ombres errantes était le premier volume, ce qui était fou parce que c'était une forme qui dérogeait complètement au roman. Bon. Mais, ben voilà, un homme par exemple qui a complètement tourné le dos aux vicissitudes, en tout cas à la course à la puissance, au pouvoir et à l'apparence. Voilà un homme qui était inscrit dans un métier, il était secrétaire général des éditions Gallimard, il avait beaucoup de pouvoir là, il s'occupait... beaucoup de musique classique, il s'occupait d'un centre de musique baroque, il avait 1000 responsabilités, puis un jour il s'est dit je vais écrire, je vais travailler pour moi, et il a tourné le dos au monde, et il a, comme le clergé régulier qui s'est retiré du siècle, Pascal à sa manière s'est retiré dans la lecture et l'écriture. Voilà un homme dont je suis sûr que l'œuvre restera, elle est peu à peu traduite, les éditeurs ont l'habitude de dire dans le monde entier, ce qui est exaspérant, il n'y a pas de monde entier, mais elle est très largement traduite. Elle est très largement traduite, elle ne cesse de gagner des territoires. Bon, voilà quelqu'un qui, par sa constance, par sa gestion du temps, a évidemment construit une œuvre. Ça me fait très très plaisir que sur cette partie-là, puisque Ombres errantes n'est pas l'intégralité de ce que fait Pascal Quignard, mais sur cette partie-là de l'œuvre... nous ayons cheminé ensemble depuis maintenant, je ne sais plus, Ombres errantes, ça doit être 2005, quelque chose comme ça. Bon, ça fait déjà 12 ans. On en est au 11e volume, quelque chose comme ça, 10e volume. Ça, c'est très beau. C'est une histoire très belle. Alors, bon, je ne vais pas vous... Il y a aussi des choses en non-fiction qui m'ont marqué, que j'ai été heureux de faire. Récemment, j'ai 11 ans de travail de Thierry Volton pour faire une histoire mondiale du communisme en 3 volumes, c'est magnifique. Un homme seul qui fait une histoire mondiale du communisme et qui travaille 11 ans dessus, il faut qu'il puisse compter en contrepartie sur un type qui tiendra pendant ce temps-là. Quand Michael Levinas me propose de reprendre l'intégrale de Lévinas en commençant par les écrits posthumes, puis en continuant par les écrits enthumes avec un collège scientifique qui entourera toutes ces publications et que nous en sommes au quatrième volume. Je vous dis pas que tout ça fait des milliers de cents, mais je pense que ça comptera pour la suite, pour la postérité. Voilà. Bon, donc là, il y a des exemples comme ça maintenant, de manière beaucoup plus quotidienne. Un jeune écrivain franco-rwandais de 32 ans nous arrive dans la maison par une jeune femme qui s'appelle Catherine Nabokov, qui apporte le texte à une jeune éditrice dans la maison qui s'appelle Juliette Jost. Donc il y a 1000 écrans avant moi, mais voilà, il se trouve que la maison publie ce premier roman de ce jeune romancier qui s'appelle Gaël Faye. Le roman s'appelle Petit Pays, et puis Conte de Fées. Près de 400 000 exemplaires sortis, 10 prix littéraires, 22 traductions. C'est des jolies aventures, c'est encore possible, quoi. C'est assez beau.
Oui.
C'est assez beau. Donc, bon, il y a 1000 choses, 1000 auteurs que je pourrais citer, amis, auteurs, écrivains. Je ne sais pas, encore récemment, on a rassemblé une entreprise qui, là aussi, se déroule depuis plus de 15 ans. Avec Dan Frank, qui avait écrit un premier volume qui s'appelait Bohème, puis un deuxième qui s'appelait Libertad, puis un troisième qui s'appelait Minuit, qui est une sorte de saga à travers le siècle des artistes, depuis le bateau Lavoir et jusqu'à la guerre, en gros. Et bon, toute l'histoire est amusante, c'est-à-dire le premier volume, tout le monde lui refusait, ce Bohème, je l'avais fait chez Kalman Levy, puis il m'a accompagné ici, on a fait le deuxième, on a fait le troisième, puis on vient de faire l'ensemble, et puis cet ensemble vient d'être adapté pour Arte par une jeune productrice de talent, et puis ça a raflé des prix dans le monde entier. Voilà, ça s'appelle Le Temps des Bohèmes. C'est très beau, c'est des belles aventures, quoi. Donc c'est pas forcément les noms les plus connus, les gens qui vendent le plus, etc., mais dans des registres différents, c'est des choses très très intéressantes. Après, il y a les aventures de pensée qui sont passionnantes. Il y a des... Non, la difficulté croissante que j'ai dans le domaine de la non-fiction, c'est que nous avions un secteur d'essai très couru et qui marchait très bien, etc., mais avec un spectre idéologique qui allait en gros... Enfin, qui restait dans les frontières de ce qu'on appelle le cercle de la raison, quoi, qui allait du centrisme réformiste au social-libéralisme, en passant par la social-démocratie, pour aller vite. Or, c'est exactement la sensibilité politique qui est en perte de vitesse en France aujourd'hui. L'ultra-gauche renaît de ses cendres d'un côté, et je dirais tout un spectre souverainiste, nostalgique, adieu à la France qui s'en va, etc., qui va de la sensibilité figmag aux confins de choses moins agréables. Tout ça reprend du corps très fort. Or, je n'ai ni de guichet de droite tradie, si j'ose dire, ni de guichet de gauche radicale. Je n'ai pas l'intention de forcer la nature de la maison ni son histoire. Donc, comment est-ce que vous remplacez des moteurs qui s'essoufflent tout seuls? C'est très intéressant, ça, par exemple. Dans un des paris... ça a été pour moi de me dire, on va prendre le pari de l'antidéclinisme et de l'antidéprimisme surtout. C'est-à-dire, il y a dans ce pays, partout, des jeunes gens surdoués qui explosent dans le monde entier, des gens absolument passionnés. Tant qu'à pas vendre, ne vendons pas des très bons livres avec des gens complètement passionnés. Au moins, on se sera frotté à des types qui font des choses. Et donc, premier exemple de ça, j'ai tanné un type... que je connaissais pas, mais que j'ai rencontré dans une soirée, qui était Cédric Villani. Le nom vous dit quelque chose ?
Oui,
voilà.
Et le rêve vivant.
Voilà. Donc, médaille fil, tout ça. Et moi, le gars, je connaissais rien. Je l'avais pas vu. Je suis dans une soirée, tout le monde me paraissait mort, quoi. Costard, cravate, ils étaient tous endormis. Et je vois un marsupilami, là, qui me, avec son araignée, sa lavalière, son truc... qui me paraît avoir être habité, quoi. Voilà, c'est un type qui a vu la Vierge, visiblement. Donc je demande, c'est qui ce type-là, qu'est-ce qui se passe? On me dit, mais comment, vous connaissez pas Cédric Villani, machin, médaille Field, ceci, cela. Je me dis, alors ça, c'est fascinant. Qu'est-ce qui se passe dans la tronche d'un mec comme ça? Ça me fascine. Comme je suis un grand joueur d'échecs, enfin, grand joueur, je joue beaucoup, ça ne veut pas dire que je joue bien. Je me dis, et j'ai harcelé ce type. J'ai fondu dessus, j'ai harcelé. Bon, il m'a dit, mais mon pauvre vieux, moi je suis entre Tokyo, Melbourne, je passe ma vie dans les avions, j'ai pas une minute, qu'est-ce que vous voulez que je perde mon temps à? Je lui ai dit, bah, vous avez bien une minute pour moi au bureau. Bon, la minute est devenue 3 heures, on a passé 3 heures ensemble ici, puis j'ai essayé de semer des graines, et puis le type m'a dit, je vais voir, mais je crois pas, parce qu'il insistait pour me dire, je pourrais faire ci. J'ai dit, mais non, moi je veux un journal, le journal de la création du théorème, je l'aurais bien appelé théorème si Pasolini l'avait pas fait déjà. On va voir. Et puis j'envoyais un mail de temps en temps, comme une bouteille à la mer, 6 mois après, 1 an après, etc. Puis le gars, un jour, me dit, je repasse par Paris, est-ce que je peux vous rencontrer? Ben oui, et comment?
Et il a fait son chemin.
Ah, mais même plus que le chemin, il me dépose le manuscrit. Il me dit, ben voilà, écoutez, je vais vous dire, le monde entier m'a demandé des trucs depuis, mais enfin, comme vous aviez été le premier, puis vous aviez une bonne gueule, vous aviez l'air gentil, tout ça, je me suis essayé à faire un truc, vous me direz si ça vaut quelque chose, en tout cas, il est à vous, paf, il me fout ça sur le bureau. Bon. Et après, ben, on le publie, je le mets en jaune à la rentrée littéraire. Enfin, je fais un truc complètement contre-intuitif, quoi. Et ça flambe. Le livre flambe, ça vend à l'étranger. Bon, c'est des histoires magnifiques, ça. Alors, ça, j'ai en cours pas mal de choses. C'est ça que je disais à mes éditeurs, enfin, aux éditeurs qui bossent ici, dans la maison, c'est apportez-moi des gens qui sont pleins de ce qu'ils font. Parce que c'est rare que la passion ne soit pas communicative. Et donc, et puis en plus, ça enverra un message sur ce pays qui n'est pas éternellement un message de prophétie d'apocalypse, de remise en cause, de déprimisme, de dénonciation, de système des gens. Voilà. Donc sortons du « je suis partout » et allons vers « la France est partout » et « elle a des yeux, elle a des visages, elle a une manière de faire, elle a du génie ». Bah, allons chercher le génie français là où il est, dans les jeunes générations. Donc ça, on va voir si on y arrive, si on passe d'autres choses, d'autres gens, mais au moins, c'est un projet exaltant, si vous voulez, voilà. On peut évidemment cavaler derrière la dernière feuille de paye de Fillon, mais ça m'intéresse plus, quoi, de faire Villani, si vous voulez, c'est comme ça.